27 ans, cheveux bruns longs, a disparu le 23 avril 2015 à 15h05 à Sancy-le-Haut en Meurthe-et-Moselle.
La seule inquiétude qu'elle avait quand elle est montée dans cette voiture après, c'est de ne plus revoir son papa et sa maman.
On remercie tout le monde, on a eu plein de messages, des milliers de messages.
150 hommes sur le terrain.
Porte à porte, systématique. Tous les habitants du village interrogés. 200 gendarmes à la recherche du moindre indice.
On sait bien que plus le temps passe, plus il y a peu de chances de retrouver l'enfant sans blessure, sans avoir été victime d'agression, et voire vivant.
Ça fait un choc, on se dit waouh. L'alerte enlèvement chez nous en Meurthe-et-Moselle, dans un petit village de 360 habitants.
Moi je suis persuadée que sans l'alerte enlèvement, on n'aurait pas retrouvé Bérénice vivante.
L'enlèvement de Bérénice va devenir une affaire emblématique. Elle illustre à elle seule toute la force du plan Alerte Enlèvement. Il y aura un avant et un après. L'enlèvement de Bérénice aura marqué la région du Grand Est et la France entière. Cette affaire est aussi celle d'un drame collatéral et une terrible première dans une alerte enlèvement, avec la mort d'un gendarme parti à la recherche de la fillette. Cinq ans plus tard, nous avons décidé de retourner sur les lieux pour rencontrer les protagonistes de cette affaire et vous raconter l'envers du décor. Tout commence à Sancy. Un petit village de 350 habitants dans l'est de la France. Sonia Lemont est la mère de trois enfants. Ce jeudi 23 avril 2015, ce sont les vacances scolaires et sa fille, Bérénice, est à la maison.
La maison des parents de Bérénice se trouvait en fait sur la place du village, c'est vraiment la place principale du village.
Il est 15h. Quand elle l'autorise à faire un tour de vélo dehors, dans le quartier.
Elle laisse sa fille aller en vélo tourner à côté, dans la petite ruelle à côté. Et puis elle l'appelle, elle ne la voit pas.
Et en allant la rechercher, elle croise un véhicule genre fourgonnette blanche qui repart en sens inverse. Voilà.
Sonia se précipite vers l'impasse. Là, elle découvre le vélo de Bérénice, posé contre le muret. Mais aucune trace de sa fille.
On n'a pas arraché l'enfant de son vélo, qui serait tombé. Le vélo était posé correctement, donc a priori, il n'y avait pas, là encore, de signe dès le départ qui aurait pu laisser envisager quelque chose de violent, quelque chose de dramatique.
Pourtant, Sonia en est convaincue. Il est arrivé quelque chose de grave à sa fille. Bérénice a seulement 7 ans et elle ne s'éloigne jamais de la maison. L'angoisse monte. La maman est affolée. Elle prend son téléphone et prévient la gendarmerie.
Elle donne déjà un signalement intéressant sur ce qui s'est passé, sur un véhicule, sur sa fille qui a disparu. Elle dit, voilà, ma fille a disparu. Elle a peut-être été enlevée. J'ai vu un véhicule partir, son vélo, j'ai retrouvé son vélo, elle n'est pas dessus. Et voilà comment les choses commencent.
Vingt minutes plus tard, cinq patrouilles de gendarmes arrivent sur place. Ils retrouvent la maman désemparée.
Elle est manifestement très affolée, très inquiète. Elle s'en veut beaucoup, elle se reproche de l'avoir laissé, de ne pas l'avoir perdu de vue pendant quelques minutes.
Sonia donne sa version des faits. Chaque détail compte.
On va lui demander ce qu'elle pense. Et on va commencer à travailler avec elle pour savoir si elle a été menacée, si elle n'a pas été menacée, quelle raison pourrait porter sur la disparition de sa fille. Donc, quels sont les comportements habituels de sa fille. Est-ce que c'est une fugueuse? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est pas la première fois? Enfin, on va essayer de travailler tout ça avec elle, tout en la rassurant, parce qu'évidemment, elle est en détresse profonde. Et c'est très important que cette compassion puisse l'exercer au contact des gens qui vivent ce genre de situation.
En parallèle, une enquête de voisinage est aussitôt lancée. À Sancy, chacun connaît son voisin. Ils ne sont que 350 habitants. Peut-être l'un d'entre eux a-t-il aperçu Bérénice.
L'enquête de voisinage fait partie des axes de recherche. Je le rappelle, dans un premier temps, on envisage toutes les possibilités de la fugue de la mineure à l'enlèvement crapuleux.
Donc les gendarmes procèdent aux vérifications habituelles qui consistent essentiellement à vérifier l'ensemble des endroits et des amis que la jeune fille a l'habitude de fréquenter.
Mais pour le moment, Bérénice est introuvable. Une heure vient de s'écouler depuis la disparition de Bérénice. Un hélicoptère est réquisitionné. Il survole les champs et les jardins aux alentours. Mais là encore, aucune trace de la fillette de 7 ans. La piste accidentelle est écartée. Reste la dernière hypothèse, beaucoup plus effrayante et redoutée, celle d'un enlèvement. L'impasse où l'on a retrouvé le vélo de la fillette intrigue les gendarmes. Ils doivent comprendre ce qui s'est passé ici. Une équipe cynophile est appelée en renfort.
Le chien, ne trouvons pas de piste à partir du vélo. Ça donne à penser qu'elle est montée dans une voiture. Sinon, on aurait une piste. Le chien suivrait une trace. Si l'enfant descend de son vélo pour aller quelque part, le chien aurait suivi. Qu'il puisse la perdre après quelques centaines de mètres parce qu'il y a un tas de monde qui a circulé, ainsi de suite, possible. Mais au départ, il y aurait eu quelque chose. Qu'il n'en ait aucune, c'est bizarre. Soit le vélo a été posé là et la gamine n'y a jamais été. C'est toujours une possibilité. Soit elle est montée dans une voiture. Il a été enlevé, raison pour laquelle on n'a aucune trace.
Des inquiétudes qui se confirment avec l'irruption d'un témoignage crucial, celui d'un voisin. Il vient de faire installer une caméra de vidéosurveillance dans son jardin. Il confie les images aux gendarmes. On y voit bien le passage d'un fourgon blanc à l'heure de la disparition de Bérénice. Mais aucune immatriculation n'est visible. Les gendarmes commencent à imaginer le pire.
Soit on est sur un pédophile qui a enlevé une gamine, c'est la partie généralement la plus dramatique. Soit on est sur une affaire interne dans la famille où... qu'on nous a pas tout dit, voilà.
Mais les enquêteurs ont déjà fait le tour des vérifications. Les parents et familles sont mis définitivement hors de cause. Il faut aller vite. Dans un enlèvement d'enfants, chaque seconde compte. Il est 16h30. Le procureur de la République de Briey, Yves Leclerc, est prévenu de la piste de l'enlèvement. L'enquête se renforce dans cette direction.
Ça va consister essentiellement à rechercher dans nos archives tous les dossiers de faits ou de personnalités qui seraient susceptibles d'enlever une jeune fille.
Les enquêteurs épluchent le FIJAS, le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Le fait que ça puisse être un pédophile qui l'a enlevé, ça fait partie des options dès le départ quand on part du principe que c'est criminel.
Ils recherchent un par un les individus fichés comme délinquants sexuels et qui seraient localisés dans le secteur de Sancy.
Et là, on nous dit tout de suite qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est connu au village pour ce genre de fait. Donc là, j'ai une autre équipe qui va se charger des vérifications auprès de cette personne.
Voilà. Les enquêteurs se rendent en urgence sur place. Le suspect est intercepté par les gendarmes. Hélas, c'est une fausse piste.
On a pu s'apercevoir que c'est pareil, il était totalement étranger à cette affaire.
Pour autant, les gendarmes continuent de creuser la piste du délinquant sexuel en contactant les prisons.
Pour qu'on nous transmette dans les meilleurs délais la liste de tous les détenus qui auraient ce genre de profil et qui seraient susceptibles d'être sortis récemment.
Autre piste explorée, les frontières. Sancy se trouve non loin du Luxembourg, mais aussi de l'Allemagne et de la Belgique. Bérénice peut être partout. L'alerte est dorénavant générale.
Voilà, donc on a toute une machinerie qu'on met en route.
17 heures. Déjà 2 heures que Bérénice s'est volatilisée. Les enquêteurs décident de se concentrer sur la recherche du véhicule. Peut-être auront-ils plus de chance.
Nous cherchons un fourgon blanc, correspondant à la description que nous en a fait la maman, parce qu'à ce stade, on n'a pas grand-chose d'autre. Et donc, on va contrôler tous les fourgons blancs, par définition.
Mais des fourgons blancs, à la campagne, il y en a beaucoup. De nouvelles patrouilles sont appelées en renfort.
Les motards sont intervenus un peu partout pour contrôler tous les fourgons qui circulaient très rapidement, pour être sûr qu'on n'ait pas un fourgon transportant cet enfant qui puisse quitter le secteur. Partout où un fourgon a été signalé aux abords d'un étang ou dans un bois, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie est intervenu pour aller contrôler, retrouver celui qui est propriétaire du fourgon et vérifier l'intérieur.
Mais ces contrôles vont être le théâtre d'un drame.
Oui, un drame terrible hein, qui est la mort d'un de nos motocyclistes qui est justement déclenché pour aller contrôler un véhicule repéré par l'hélicoptère qui est déclenché par le centre opérationnel qui conduit les opérations et qui, donc, avec sa patrouille, va doubler dans un village assez proche d'ailleurs des lieux, va remonter toute une file de véhicules et puis un véhicule va déboîter sur la gauche, ce qui arrive malheureusement, ce qui est le danger majeur pour les motos, et va déboîter et lui va percuter.
L'adjudant Philippe Lallemand est grièvement blessé. Transporté à l'hôpital, il ne survit pas. L'enquête bascule dans la tragédie.
Nous avons porté ça et on l'a porté d'ailleurs jusqu'aux obsèques. Et je dis, ça se porte même bien après, parce que c'est pour la famille, évidemment, c'est un drame qui va durer longtemps, mais qui ne s'effacera jamais et qui nous appartient de continuer à porter.
Ça nous a bouleversés.
Les recherches du fourgon blanc s'intensifient. Dans les villages, sur les routes et axes autoroutiers, partout, les gendarmes renforcent les contrôles. Mais soudain, ils se retrouvent face à une nouvelle difficulté.
Nos concitoyens, dès lors qu'ils voient des patrouilles de gendarmes ou de policiers, eh bien, ils font des appels de phare. C'est extrêmement destructeur. C'est-à-dire que la plupart de nos dispositifs destinés à lutter contre la délinquance sont inopérants à cause des appels de phare de nos concitoyens. C'est un obstacle très sérieux et qui est très ennuyeux.
Mais trop tard, le mal est fait. Avec leurs appels de phare, les automobilistes, bien malgré eux, alertent le fuyard. Il est presque 20 heures. Bérénice a disparu depuis déjà 5 heures. Et l'enquête tourne en rond.
On sait bien que plus le temps passe, plus il y a peu de chances de retrouver l'enfant sans blessure, sans avoir été victime d'agression, et voire vivant.
Il est 20h. Sur place, le procureur Yves Leclerc pense à activer le plan colossal de l'alerte enlèvement. Mais n'est-ce pas déjà trop tard? Pourquoi avoir attendu 5 heures pour l'envisager?
La particularité de cette situation était que l'enlèvement n'était pas avéré au sens du texte. Au sens où il n'y avait pas de témoin visuel de l'enlèvement.
Il faut que l'on ait un certain nombre d'éléments factuels qui puissent être donnés au public, une immatriculation, une description de personne. Dans ce cadre-là, et face à ces éléments qui sont requis par les enquêteurs, le ministère de la Justice peut décider de déclencher l'alerte.
Le procureur hésite. Il pèse le pour et le contre une dernière fois avec les gendarmes. Et finalement, même si les critères font défaut, il décide de jouer le tout pour le tout. Le plan alerte enlèvement va être déclenché.
Qu'est-ce qu'on pouvait encore faire pour avancer dans l'enquête? À part cette alerte enlèvement. Parce que l'alerte enlèvement, même si vous n'avez pas les éléments, peut-être que quelqu'un les a.
Il ne faut plus perdre de temps. Un centre d'appel est mis en place avec l'aide du maire de Sancy.
Il met à notre disposition les locaux de la mairie où on s'installe avec la direction opérationnelle. Donc là, à cet endroit-là, on va collationner toutes les informations qui vont nous arriver au fur et à mesure.
Ce jeudi 23 avril 2015, à 20h17, la France découvre le visage de Bérénice.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Bérénice, 7 ans, cheveux bruns longs, a disparu le 23 avril 2015 à 15h05 à Sancy-le-Haut en Meurthe-et-Moselle. Elle porte une jupe à volant blanc et un haut multicolore. Un fourgon blanc, conduit par un homme d'une quarantaine d'années, a été vu sur les lieux.
On entend le son, une petite fille, une fillette de 7 ans a été enlevée à Sancy. Quand on connaît Sancy, on se dit, cela fait un choc quand même. Ça fait un choc, on se dit, waouh, l'alerte enlèvement, un enlèvement de ce type chez nous, en Meurthe-et-Moselle, dans un petit village de 360 habitants. Oui, on avait comme du mal à s'en rendre compte.
150 hommes sur le terrain, appuyés par un hélicoptère et qui tentent de retrouver un véhicule utilitaire blanc de type Kangoo.
Voilà près de 6 heures que Bérénice a disparu. L'alerte enlèvement est partout.
Le but de l'alerte enlèvement n'est pas de créer une panique dans le pays en disant qu'un enfant a été enlevé, mais de faire de tout citoyen un témoin éventuel qui nous permette de rechercher l'auteur des faits et donc de retrouver la victime.
Au centre d'appel de Sancy, les gendarmes n'arrêtent pas. Des centaines d'appels affluent et sont triés, vérifiés un par un par les enquêteurs. Il est 21h43, quand soudain, un appel retient l'attention des enquêteurs. Une dame est inquiète. Elle a repéré une camionnette blanche stationnée sur un parking. Elle entend des cris d'enfants à l'intérieur. Une patrouille est envoyée immédiatement sur les lieux, à Charleville-Mézières. Pour finalement découvrir que c'est une fausse alerte, une de plus.
Chaque fois, ça a amené à sortir énormément de patrouilles, à mettre énormément de monde sur le terrain pour retrouver ce fourgon blanc qui n'a jamais essayé d'enlever qui que ce soit. Le pauvre monsieur au volant voulait savoir où était tel quartier ou telle rue.
...23h30. Les heures passent à vérifier chaque information. On est toujours sans nouvelles de Bérénice. Mais tout à coup, une agitation se fait sentir dans le PC d'enquête.
C'est le centre opérationnel des Ardennes et qui nous donne donc l'information qu'une dame à Grandpré a chez elle une petite fille, qu'elle a vue la télévision, que la petite fille dit qu'elle s'appelle Bérénice.
23h, la fillette est relâchée à plus de 100 km de là, dans les Ardennes, devant cette maison habitée par un médecin.
J'ai entendu frapper à ma porte et j'ai demandé qui était là et elle m'a répondu c'est Bérénice. Donc je lui ai ouvert étant donné que j'ai entendu une voix d'enfant. Et Bérénice est donc rentrée, tout à fait confiante. Elle m'a dit qu'un monsieur l'avait déposée.
C'est un moment qui est tellement intense et qui est tellement... retrouver cette gamine vivante, c'est vraiment intense. Même quand on a 38 ans de carrière, ça reste un moment remarquable.
La petite Bérénice est d'abord hospitalisée pour vérifier son état de santé. Elle est examinée par un médecin légiste et par un gynécologue. Puis, elle retrouve enfin sa famille.
La petite Bérénice, enlevée hier à Sancy, en Meurthe-et-Moselle, est libérée 8 heures après, dans un village des Ardennes, a retrouvé son domicile familial ce matin.
On est juste très content d'avoir récupéré notre fille, en bonne santé. On remercie toutes les forces de l'ordre. On remercie la dame qui a accueilli notre fille.
Madame Lee.
On remercie tout le monde. On a eu plein de messages, des milliers de messages, que ce soit par Facebook, SMS, messagerie personnelle ou quoi. Merci de la solidarité que tout le monde a montrée.
Le lendemain matin, Bérénice est entendue par les gendarmes de la brigade de protection de la famille. Ils ont besoin de savoir que lui est-il arrivé pendant ces 8 heures d'angoisse.
Elle va dire « Je me suis fait prise ». Je sais pas, on m'a pris, on m'a enlevé, je me suis fait prise. Comme si elle avait été... Vous voyez ce que je veux dire? Avec ces mots de 7 ans et demi, je me suis fait prise par lui. J'ai pas compris, elle sait pas. Tout ça pour 2-3 bonbons, quoi. Elle va prendre ses bonbons, elle va monter dans la voiture parce qu'on va lui tendre les bonbons et puis elle va partir, quoi.
Partir, mais vers quelle direction? Où son kidnappeur l'a donc emmenée pour la retenir prisonnière?
Il va lui dire « Je suis perdue, je ne retrouve pas, je ne sais plus comment retrouver ta maison. » Et elle a dit « Mais je ne comprends pas, parce qu'il pouvait faire demi-tour, mais il n'a pas fait demi-tour. » Et elle, tout au long du chemin, elle va regarder les panneaux. Elle va voir un panneau « Nancy McDo ». Ça, elle se le rappellera très bien. Elle va le dire aux gendarmes.
C'est toute l'audition de Bérénice, le caractère délicat de ces auditions. Et qui va révéler une petite fille extrêmement sensée, extrêmement posée, avec une mémoire absolument extraordinaire.
Son ravisseur l'emmène dans un lieu isolé, une vieille ferme. C'est là, dans une chambre minuscule, avec un lit au drap sale, que son kidnappeur va la retenir.
Il va lui dire « Si tu es fatiguée, tu peux t'allonger. » Et pendant toute cette durée où elle sera dans cette chambre, il va s'absenter à plusieurs reprises. Il va s'absenter à 3 ou 4 reprises. Il va partir, il va l'enfermer. Et il va lui dire « Si tu as des besoins à faire, il va lui laisser une boîte en fer en lui disant « Si tu veux faire pipi, bah, tu feras pipi dans cette boîte. »
Bérénice va rester enfermée dans cette pièce pendant 8 longues heures.
Et elle dira pendant ces moments-là, il y a des moments où j'ai pleuré. Je pensais à ma maman, je pensais à mon papa, je pensais à ma maison, à mes frères et sœurs.
Reste un moment particulièrement délicat à évoquer avec Bérénice. La fillette a-t-elle subi des violences sexuelles?
Ce qu'elle va nous dire va nous permettre de préciser la qualification d'infraction, parce que jusque-là, on ne sait pas si elle a fait l'objet, de quoi elle a fait l'objet en réalité. D'attouchement sexuel, de violence, etc.
D'après ce que dit Bérénice, il lui aurait fait un bisou sur la joue. D'accord. Il se serait allongé tous les deux à un moment sur le lit et il aurait mis sa main sur son ventre parce qu'elle avait plus sa petite robe, comme elle dit, il faisait chaud, j'avais enlevé la robe. Il a mis sa main sur le ventre, c'est tout.
C'est au moment où ils sont allongés, tous les deux quasi nus dans le lit, que soudainement son kidnappeur change de comportement.
Ils sont en train de faire semblant de dormir, ou en tout cas d'essayer de dormir. Comme elle dit, on essaye de dormir, on a éteint les lumières et tout. Et elle dit, son téléphone, il s'allumait plusieurs fois et recevait des messages.
Son ravisseur consulte son téléphone. Soudain, il se précipite. Il rend ses habits à Bérénice, lui demande de se rhabiller à toute vitesse. Ils partent. En pleine nuit, il la conduit jusqu'à une maison éclairée et la dépose là. Bérénice est libre. Même si l'issue est heureuse, les enquêteurs sont particulièrement inquiets. Bérénice leur raconte un épisode qui leur fait craindre le pire sur la dangerosité de son kidnappeur.
Il lui dira aussi à un moment, il va lui montrer un endroit sur l'Atlas et il va lui dire, tu vois, c'est là que Chloé a disparu. Donc il lui parle d'une autre petite fille, elle ne sait pas qui c'est Chloé. Mais du coup, ça lui fait peur.
Et si Bérénice n'était pas sa seule victime? Le profil du kidnappeur fait basculer les gendarmes dans l'angoisse.
C'est clair que quelqu'un qui commet ce genre de fait, s'il relâche la gamine, rien ne nous dit qu'il va pas en prendre une autre. Donc pour nous, c'est important rapidement de pouvoir le retrouver, l'identifier, le mettre hors d'état de nuire.
Un hélicoptère pour retrouver la camionnette du suspect. Porte à porte, systématique. Tous les habitants du village interrogés. 200 gendarmes à la recherche du moindre indice. Ce soir, les recherches continuent. Sans résultat.
Le 27 avril 2015, 3 jours sont passés depuis que Bérénice a été retrouvée. Du côté des gendarmes, ça bouge. Ils apprennent une information cruciale. La police scientifique qui a conservé les vêtements de la petite fille a trouvé quelque chose. Sur la culotte de Bérénice, ils ont isolé un ADN masculin, celui du kidnappeur.
Cet ADN va être comparé à la base FNAEG, donc le fichier national des empreintes génétiques, et là, il va avoir un hit positif, à savoir le nommé Faucha Eric.
Ils ont un nom. Reste à savoir qui est Éric Fauchard.
Récemment, il avait fait l'objet d'une plainte pour des atteintes sexuelles envers des jeunes membres de sa famille. Et à cette occasion, son ADN avait été prélevé.
C'est ça. Mais la procédure n'en était qu'à ses débuts. Elle était engagée, avait permis le prélèvement. C'est ce prélèvement qui va permettre, en étant confronté à la trace, de faire sortir son identité.
Grâce à son nom, les gendarmes collectent des informations précieuses. Éric Fauchard a 48 ans, il est père de famille. Agriculteur, il vit seul à la ferme dans un petit village de la Meuse, à 100 km de Sancy. Et son casier judiciaire décrit un homme dangereux.
L'intéressé était connu pour des violences, des faits de braconnage. Donc il était susceptible d'être violent et armé, d'après mes collègues meusiens.
C'est ce qui va justifier que, pour son interpellation, nous fassions appel au GIGN.
Toute la nuit, une équipe du GIGN surveille la ferme d'Éric Fauchard. Et à 6h du matin, dans le village de Monzéville, les gendarmes passent à l'action.
L'homme n'oppose aucune résistance, il est hagard. Et ce qui surprend, c'est vraiment quand on se rend sur les lieux, c'est que tous les détails qu'a donné la jeune Bérénice, que je rappelle âgée de 7 ans, on semble les retrouver. Le véhicule qui manque une roue devant la ferme, le lit dans la pièce, le poster, la télé sur le bord de fenêtre, un amoncellement de papier WC derrière une porte. Voilà, on est vraiment... On sait qu'on a la bonne personne à ce moment-là.
Ce soir, c'est un immense soulagement pour les parents de Bérénice.
J'attendais qu'on l'attrape. Je pensais pas que ça se ferait aussi rapidement. Et je me dis que tant qu'il est enfermé, il n'attrapera personne d'autre. Je pense à toutes les autres familles qui ont traversé des choses similaires. Je me dis que merci, la mienne est revenue.
Le ravisseur présumé de la fillette, le voici, un agriculteur d'une cinquantaine d'années, père de famille.
Après l'alerte enlèvement de Bérénice, la France entière découvre maintenant le visage de son kidnappeur.
Monsieur Fauchard, il fait peur. Et Bérénice dira, il me faisait peur, il n'était pas beau ce monsieur. Et elle a eu peur de lui, ça se comprend parfaitement lorsqu'on le voit. Il est effrayant.
Éric Fauchard est placé en garde à vue. Pour l'entendre, les enquêteurs sont assistés par des gendarmes spécialisés dans le comportement criminel. L'audition s'annonce compliquée. Ils sont face à un homme mutique. Puis, Fauchard se met à parler. Mais il est confus. Il se contredit.
Au début, il est un peu dans la négation. Et, évidemment, il n'a pas fait tout ça. Et puis, progressivement... Il va finir par dire un ensemble de choses.
Éric Fauchard nie en effet l'enlèvement de Bérénice, en brandissant un argument glaçant.
Oui, lorsqu'on lit les dépositions de M. Fauchard, il dit le pire. À une des questions, il répond ainsi. Vous vous rendez compte, je l'enlève. Je lui montre tout et je la ramène. Là, il ne faut pas être honnête. Moi ou n'importe qui, j'imagine que si j'avais l'intention de faire un truc comme ça, je la garde et je la tue. Je ne la ramène pas. Il le dit clairement, je la tue. Il le dit, il l'a pensé.
Après 48 heures de garde à vue, Éric Fauchard est déféré devant un juge. C'est à ce moment-là qu'il décide enfin de faire appel à un avocat. Et il commence à s'expliquer.
Oui, il reconnaît qu'il a pris Bérénice, qu'elle est montée dans sa voiture et qu'il s'est retrouvé perdu. En fait, il s'est perdu et là, il ne savait plus quoi faire. Et plutôt que de faire demi-tour, de revenir sur ses pas, de redéposer la petite ou de la laisser là où il l'avait prise, il est rentré chez lui en se disant « je vais la ramener chez moi, je réfléchirai après, mais je la ramènerai ». Donc ça ne tient pas la route, mais en tout cas, ce sont ses explications.
Le juge insiste sur un point, la libération de Bérénice. A-t-elle un lien avec la diffusion de l'alerte enlèvement ?
On a pu établir également qu'il avait reçu une demi-heure avant la remise en liberté de la petite plusieurs SMS de sa fille de 12 ans. Donc on peut imaginer fort bien que les SMS de sa fille l'ont fait réfléchir et qu'il a pris conscience qu'il fallait qu'il libère la petite.
En effet, les gendarmes prennent connaissance du contenu des SMS envoyés par la fille de Fauchard. Chacun relaye le message de l'alerte enlèvement en cours. Drôle de hasard.
Le déclenchement de l'alerte enlèvement, qui amène 2 heures après à ce que la petite Bérénice soit déposée chez cette dame, il y a sans aucun doute un lien entre les deux. Sans aucun doute, parce que je pense que ça a mis l'auteur en insécurité vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son environnement, a créé un stress chez lui et il a déposé la gamine parce qu'il sentait que cette alerte enlèvement allait le conduire à être identifié, je pense.
Là encore, Éric Fauchard continue, lui, de nier.
La question, est-ce que c'est ça qui l'a incité à ramener la petite dans la nuit ou pas ? Lui dit que non. Lui dit, je l'aurais ramené même sans le déclenchement du dispositif de l'alerte enlèvement. De toute façon, il était prévu que je la ramène.
Moi, je suis persuadée que sans l'alerte enlèvement, on n'aurait pas retrouvé Bérénice vivante. Puisque c'est le SMS que reçoit M. Fauchard de sa fille qui l'informe de cette alerte enlèvement qui va permettre, je pense, de le raisonner. C'est cette alerte enlèvement qui va faire basculer le dossier.
Le 29 avril 2015, une information judiciaire est ouverte à l'encontre d'Éric Fauchard pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Le temps de l'instruction commence. Du côté des gendarmes, des perquisitions sont menées dans la ferme d'Éric Fauchard. Mais aussi dans le fourgon blanc, dans la cour. À l'intérieur, de l'ADN, celui de Bérénice. Toutes les preuves désignent Éric Fauchard comme le ravisseur. Pendant ce temps-là, à Sancy, la famille de Bérénice doit affronter un coup dur. Un non-lieu partiel est prononcé concernant les faits d'agression sexuelle.
C'est une crainte légitime de la part des parents de penser que leur fille aurait pu être victime d'agression sexuelle. Mais je veux dire, Bérénice était très claire, il ne s'était rien passé. Et on a l'expertise médicale qui est faite sur Bérénice et qui conforte, qui confirme, qui dit qu'il n'y a absolument rien eu.
Autre déception pour les parents de Bérénice, l'affaire est renvoyée au tribunal correctionnel. C'est-à-dire que pénalement, les faits reprochés à Éric Fauchard sont considérés comme des délits et non des crimes.
Il a libéré Bérénice avant le délai de 7 jours. S'il l'avait libéré après le délai de 7 jours, cela relevait de la cour d'assises puisque c'était un crime puni par la loi. Or là, c'était correctionnel. Il l'a libéré spontanément, volontairement, avant les 7 jours. C'est pour ça que la peine maximale est de 5 ans.
Le procès s'ouvre le mardi 23 février 2016 au tribunal correctionnel de Briey, en Meurthe-et-Moselle. Éric Fauchard comparaît dans le banc des accusés.
Éric Fauchard, c'était quelqu'un de perdu, quelqu'un de dépressif, quelqu'un au bout du rouleau.
Éric Fauchard est en litige depuis plusieurs années avec la Mutuelle Agricole, la MSA, concernant sa ferme. À tel point qu'il s'est endetté.
Donc c'est quelqu'un qui est désabusé, qui a l'impression que la justice ne l'écoute pas.
Oui, alors M. Fauchard, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, lorsqu'on lui pose la question « Pourquoi Bérénice ? Pourquoi vous l'avez enlevée ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ?», il répond qu'il avait des problèmes. Qu'il avait des problèmes avec les services fiscaux, avec l'URSSAF, avec le MSA, qu'il n'arrivait pas à payer ses dettes, etc. Et qu'il voulait trouver quelqu'un qui puisse l'entendre et l'écouter. Et que Bérénice, eh ben, cette petite fille de 7 ans et demi, elle pouvait l'entendre et l'écouter. Donc il a pensé que c'était la personne idéale, adéquate, qui pouvait être là et présente.
Son discours était totalement incohérent, en tout cas.
Le procureur tente en vain de ramener Fauchard à ses responsabilités.
Je me souviendrai aussi toujours des propos de la procureure qui disait vraiment « Mais vous avez bousillé, vous avez tué l'innocence de cette fille. » Aussi, la procureure a quand même un réquisitoire très fort. Hein.
La mort tragique du gendarme Philippe Lallemand est aussi évoquée au cours de l'audience.
C'était la vice-procureure qui dit « Mais vous avez quand même tué quelqu'un, vous avez tué ce gendarme qui, dans l'exercice de ses fonctions, a été victime d'un accident mortel. » Donc effectivement, elle disait « Vous n'avez peut-être pas tué pénalement, vous n'avez peut-être pas tué quelqu'un, vous êtes quand même responsable de sa mort. » Il dit il paraît toujours aussi détaché.
Malheureusement pour les parties civiles, l'audience se poursuit avec un Éric Fauchard toujours aussi confus et hors sujet.
Tout au long du procès, il va répondre à côté de la plaque ou alors il ne répondra pas.
Beaucoup de questions restent encore sans réponse. Notamment celle de la petite Chloé, dont il parle à Bérénice pendant sa séquestration. Chloé a-t-elle existé ? Est-ce une victime de Fauchard ?
On a essayé de faire des rapprochements avec d'autres disparitions de jeunes filles qui, voilà. Non, les investigations n'ont abouti à rien. Voilà. Donc, a priori, c'était des propos qu'il avait tenus comme ça. Mais en tout cas, on n'a jamais réussi, et Dieu sait s'il y a eu un gros travail de fait derrière, à les rattacher.
On est insatisfait, on est frustré lorsqu'on sort de ce procès parce qu'on n'a pas les réponses.
Le délibéré est rapide. Éric Fauchard est condamné à 5 ans de prison ferme.
Oui, oui, j'ai commis l'irréparable. Je mérite. D'ailleurs, il n'a pas fait appel.
Pourtant, à la sortie du tribunal, la famille de Bérénice est déçue.
5 ans pour avoir enlevé un enfant, parce qu'on l'a libéré moins de 7 jours, avant le délai de 7 jours. Et puis c'est une sanction qui est beaucoup plus lourde lorsqu'on fait un trafic de stupéfiants ou du cannabis. C'est parfaitement injuste.
Monsieur Fauchard aurait mérité plus que 5 ans. Il a volé 8 heures de cette vie, de la vie de cette petite fille. Il a bouleversé la famille. Il a bouleversé leur vie à tous. Il y a eu un avant et un après 23 avril 2015. Et on ne lui met que 5 ans d'emprisonnement ferme. On aurait aimé une sanction encore plus lourde.
Pour Bérénice et sa famille, le chemin de la reconstruction va être long. Les parents se retrouvent démunis face à leur fille qui ressent de plus en plus d'angoisse.
Bérénice, après le 23 avril, n'était plus la même. Elle avait des problèmes d'endormissement. Elle ne pouvait plus dormir seule, donc elle dormait avec ses parents. Quand elle a eu fini de dormir avec ses parents, elle dormait avec son petit frère. Et vraiment, elle avait du mal à rester seule.
Les années passent, Bérénice grandit. Mais les conséquences de son enlèvement se font toujours sentir au quotidien.
Bérénice, c'est une enfant qui surveillait tous les panneaux partout où il sortait. D'accord ? De peur de se perdre.
L'ex-victime, parce qu'il faut qu'elle sorte de ce statut de victime, hein, évidemment, a développé des stratégies de compensation un petit peu. C'est-à-dire, elle a dû remarquer que sa mémoire lui a été utile dans cette affaire. Donc, elle note et elle mémorise donc des choses de son environnement, au cas où. Et puis, il ne faut pas qu'elle passe inaperçue pour être repérée et pour être au cas où elle disparaîtrait. Donc, ce sont des stigmates, en quelque sorte, de ce qui s'est passé avant.
Éric Fauchard a continué à faire parler de lui. Il repasse au tribunal en mars 2016, à Metz cette fois. Il doit répondre aux accusations d'agression sexuelle sur 3 de ses nièces. Il est condamné à 4 ans supplémentaires de prison ferme et s'y ajoute un suivi socio-judiciaire de 10 ans. Aujourd'hui, il est toujours derrière les barreaux. À Sancy, nous avons rencontré Sonia, la mère de Bérénice. Toujours marquée, elle nous confie que toute la famille est suivie par un psychologue. Pour elle, cela a été jusqu'à 3 fois par semaine.
La maman de Bérénice a un fort sentiment de culpabilité parce que ça s'est passé à côté d'elle. Je veux dire, n'importe quelle maman aurait le même sentiment de culpabilité, n'importe quel parent. Donc ça, cette maman-là, elle a culpabilisé et je pense qu'elle culpabilisera toute sa vie de se dire « c'est ma faute, j'ai rien vu, j'ai rien pu faire, mais... »
Comment vivre après un tel sentiment d'insécurité? Le maire de la commune a peut-être trouvé un début de solution. Moins d'un an après l'enlèvement de Bérénice, il équipe le village de caméras de surveillance.
Cette caméra pour un village comme un si petit village, c'est quand même pas anodin. Hein.
Aujourd'hui, Bérénice a 13 ans. Elle est collégienne et veut devenir docteur. Elle continue de se balader dans les rues de Sancy avec ses copines. Mais malgré ces fragments de vie ordinaire, Bérénice vit encore la peur au ventre. Une angoisse dont il est impossible, pour le moment, de se défaire.
Elle a eu peur parce qu'il lui a dit, Monsieur Fauchard lui avait dit lorsqu'il l'a enlevé, « Je te ramènerai un cadeau pour ton anniversaire. » Donc à chaque fois que c'est son anniversaire, elle se dit « Est-ce qu'il ne va pas venir sonner à la porte ?»